Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bonjour et bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Aujourd'hui, on écoute deux épisodes de Désorceler la finance, une proposition collective, une série documentaire sur le grand pouvoir des mots, et on commence en parlant de ce que la promotion immobilière fait à Bruxelles et ses habitantes.
Désorceler
la
finance.
Désorceler
la
finance.
Désorceler la finance présente.
Une série documentaire sur le grand pouvoir des mots. Premier épisode, le logement.
Dans chaque chapitre de ce documentaire, on va commencer par une entreprise qui est un acteur important sur le sujet dont on va traiter. Et donc là, pour le chapitre sur le logement, on va commencer par un promoteur immobilier. Et on va regarder comment il pense ça, et avec quoi est-ce qu'il est motivé à produire du logement. Ça veut dire quoi, produire du logement, tu vois? Qu'est-ce qui est cherché dans cette production de logements? C'est jamais qu'un produit comme un autre. Ils pourraient faire des yaourts, bah eux, ils font des logements, quoi. On va partir de ça, on va parler de ce que ça a comme effet sur la ville et sur ses habitants et habitantes d'avoir des grosses entreprises privées qui produisent du logement. Ça fait que le logement est plus cher, que c'est plus compliqué de se loger pour toute une partie de la population et qu'il y a des gens qui se font virer de certains quartiers ou de leur maison. Après, l'idée, c'est de passer à travers les mots, de prendre les mots et des promoteurs immobiliers, du pouvoir, etc., mais aussi les mots dont on a besoin pour se sortir de cette situation. Et essayer de trouver des mots qui nous redonnent de la puissance aussi.
Est-ce que le Bruxellois n'est pas un peu frileux au changement aussi ?
L'élément structurel, c'est qu'on est entré dans une ère de city marketing. Les villes se font concurrence. Il faut attirer. Il faut engranger les sources de revenus. Si on fait comme toutes les entreprises, comme toutes les villes, je considère sûrement la ville
comme une entreprise.
Je pense qu'il y a un peu de ça. Mais Bruxelles est comme les autres. Elle fait comme les autres.
Pour faire la ville de demain, il faut oser. Il faut presque se jeter dans le noir et s'imaginer ce que sera une ville dans 30 ans.
Alors,
le plus grand ennemi de la ville du futur est l'habitant d'aujourd'hui.
Qu'est-ce qui fait qu'une ville va attirer des investisseurs ou pas ?
Nous rencontrons Sarah Delatte pour entendre son point de vue de géographe sur le discours des promoteurs.
Une ville qui va attirer des investisseurs, bah déjà, c'est une ville qui a un skyline, quoi. Et donc, fatalement, une ville qui n'a pas son skyline, c'est pas une ville du futur, quoi. Marnix, il parle pas de logement, il parle de tours, il parle bien de bâtiments, c'est ça qui fait le monsieur, en fait. Lui, qu'est-ce qu'on met dans le bâtiment, c'est un détail, c'est une histoire de conjoncture, quoi. Ce qui est structurel pour lui, c'est qu'il faut construire un gros bâtiment et qu'il faut acheter un foncier et le rentabiliser au max, quoi. C'est du bureau à une époque, c'est du logement à un autre. Maintenant, c'est mixte. Hein, ils sont tous obligés de...
Pour faire la ville de demain, il faut presque se jeter dans le noir et s'imaginer ce que sera une ville dans 30 ans.
Marnix Gayle, c'est un des hommes les plus riches de Belgique et propriétaire d'immeubles à deux tiers. C'est le plus grand développeur immobilier belge cotée en bourse. Leader du marché immobilier en Belgique, de référence internationale.
Toute grande ville au monde qui a du succès fait que par la gentrification, un nombre de personnes doivent en sortir. Et cela crée en fait une tension sociale terrible.
Un des trucs qui nous a frappé dans sa parole, c'est quand il dit « il faut fermer les yeux ». Il fermait vraiment les yeux, tu vois, et il n'y avait plus rien. La table rase, on part de rien, rien n'existe.
Ouais.
Donc dans leur vision, on a une vision dans le noir, mais sauf que cette ville, elle est pleine de gens, elle est pleine de vie, elle est pleine de personnes qui galèrent à trouver un logement. Enfin, il n'y a pas rien. Et quand la tour arrive, c'est comme si elle faisait « comme ça
ouais.
et « démerdez-vous avec ».
Après, c'est cette espèce de paradoxe quand même de la part de la promotion immobilière. C'est qu'à la fois, elle est dans des villes qui sont attractives pour elle, parce que ce sont des villes qui sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire qui ont une certaine histoire, certaines activités économiques, certaines lois, certaines réglementations, dont certaines déplaisent à M. Marnix-Gaël apparemment. Et donc, il y a à la fois une ville qui est attractive pour ce qu'elle est, mais de l'autre côté, une ville, c'est fini. Et donc, tout l'enjeu de la promotion immobilière, c'est constamment de créer du nouveau sol, ce qui n'est pas possible, en fait. On ne peut pas créer du nouveau sol. Donc, tout l'enjeu de la promotion immobilière, c'est constamment de recréer des quartiers comme des quartiers de désirabilité, des quartiers dans lesquels on va pouvoir acheter, construire autre chose, changer. Et vraiment, c'est une rhétorique chez les promoteurs immobiliers, c'est vraiment créer du nouveau sol.
En fait, nous sommes 10 ans en arrière. Et ces 10 ans en arrière, il faut les rattraper d'une façon proactive.
Accaparement. Arriver quelque part. Considérer que c'est un désert ou que c'est sous-développé. Dire « c'est à moi ». Faire payer toute tentative d'usage de la terre, de la chose ou de l'être qui fait l'objet de l'accaparement. Faire usage des moyens nécessaires, en ce inclus la force publique, pour dissuader toute personne de contester cet état de fait. Processus parfaitement bien illustré par le jeu du Monopoly. Dérivé vers capital obscène, occupation.
Bienvenue dans ce Maguimo un peu particulier, pour nous parler de Bruxelles, entre autres, mais pour nous parler surtout des densifications de la ville. Comment faut-il densifier la ville, et plus particulièrement Bruxelles? À mes côtés, Philippe Clause, vous êtes donc bourgmestre de la ville de Bruxelles, bourgmestre PS, Gavrilo et Aya, vous êtes directeur du développement chez AG Real Estate, bonjour. Tom Sanders, directeur stratégie territoriale de Perspective Brussels. Bonjour. Hans Persons, bonjour. Vous êtes échevine de l'urbanisme à la ville de Bruxelles, SPA. Marnix Gaël, CIO d'Immobel, on vous avait déjà vu sur le plateau du Maguimo.
Ces gens, ils ont un projet pour la ville. Et ce côté visionnaire, il est vraiment très présent dans tout ce que racontent ces promoteurs.
Faut pas d'abord essayer justement de réconcilier le citoyen, le bruxellois en l'occurrence, avec les tours. On a l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de tours.
Non, mais ils aiment bien.
Je vais juste vous citer quelques projets, peut-être que vous voyez où ils sont. Il y a Brooker, par exemple, où il y a le cinéma. Bon, bah ça, c'est typiquement un gros îlot que ces promoteurs ont acquis. Et ils vont monter, bien sûr, le niveau des étages. À la Monnaie, le centre Monnaie. Il y a aussi Multi, qui est juste à côté. Il y a aussi le maintenant très connu Key West, qui est sur le canal et qui vient de changer de nom. C'est Arrive, c'est ça ? Ouais, Arrive. Il y a le projet Ernest qui est déjà terminé, qui est lui à XL. Donc c'est sur l'ancien bâtiment Solvay à XL. Donc voilà, c'est des très gros projets.
Le plus grand ennemi de la ville du futur est l'habitant d'aujourd'hui. Parce que si vous êtes locataire dans un magnifique petit bâtiment à 4 étages, vous n'avez pas la moindre envie que le plus beau bâtiment au monde, de 35 ou de 40 ou 70 étages, avec un grand lac autour, y vienne.
Ce projet qui sort de nulle part n'a de sens que dans une ville qui tire sa valeur, non pas de ce que fait la promotion immobilière uniquement, contrairement à ce qu'ils aiment raconter, mais de ce que tout le monde construit dans la ville. Une ville, c'est constitué de réseaux, c'est constitué d'activités, qu'ils soient marchandes ou non, c'est constitué d'un environnement, d'un visuel, de tout ça, c'est pas les promoteurs qui le font, évidemment, mais ils en bénéficient, et toute la question de ce nouveau sol, ça va être effectivement de, à la fois, faire croire qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose avant pour faire accepter un nouveau projet, et aussi, quand même, partir de ce qu'il y a aux alentours pour créer un récit qui va rendre ce nouveau projet désirable.
Profiteur. 1. Celui qui tire profit d'un patrimoine de plus de 3 biens immobiliers. 2. Se dit d'un promoteur qui profite de ce que les habitantes et habitants ont créé de vivant dans leur quartier ou dans leur ville pour le convertir en désirabilité pour les investisseurs. Ceux-ci chercheront l'augmentation des prix des loyers et par conséquent le remplacement de ces habitants et habitantes. 3. Familier, à valeur de briques. Dérivé vers profiterole.
On va d'abord vous proposer une très courte interview qu'on a réalisée il y a quelques jours à l'occasion de la remise des prix bâtiments exemplaires, Be Exemplary, où le secrétaire d'État à l'urbanisme Pascal Smet était présent et où lui avons donné la parole en lui demandant d'introduire ce débat parce qu'il ne pouvait pas être là aujourd'hui.
Encore une fois, pour moi, les Tours, on n'est ni Aix-en-Provence, on n'est ni New York. Il faut trouver un propre gueule, bien pensé, et avec une manière bien intégrée pensée. Et pour ce dialogue-là, je vais intégrer toutes les architectes urbanistes bruxelloises qui habitent à Bruxelles ou qui sont actifs à Bruxelles pour, ensemble avec nous, changer cette culture architecturale. Je pense qu'on doit oser plus, on doit avoir plus d'ambition, et ça va demander un changement de culture qu'on ne va pas imposer, mais qu'on va développer ensemble avec nous, changer cette culture architecturale. Tous ensemble, un changement de culture. Changer cette culture architecturale. Qu'on va pas imposer, mais qu'on va développer tous ensemble. Qu'on va pas imposer, mais qu'on va développer.
Quand j'ai fait l'objet j'étais devant le juge de paix, etc., ce qu'on m'a dit, c'est que dans même la Constitution, je crois, il y a le droit à la propriété. Et que ça, c'est inaliénable. Le problème, c'est que dans ce texte, il n'y a pas le droit au logement, qui devrait figurer même avant le droit de la propriété. Donc le droit d'avoir un toit au-dessus de sa tête, d'avoir une couverture, voilà. On n'en parle pas dans une procédure, quand tu es en conflit avec devant un juge de paix avec ton propriétaire, on n'en parle pas, ça. Enfin, le droit de propriété passe avant le droit du logement.
C'est ça.
Mars 2022, journée européenne d'action pour le droit au logement. Housing Action Day.
Des logements insalubres, des logements trop petits, ce sont des logements qui mettent en danger les gens du point de vue de leur santé physique et mentale. C'est une situation dramatique qui est la conséquence directe du fait que le logement est considéré comme un produit d'investissement, comme un bien qui s'échange sur un marché. Ce marché, il nous met tous en compétition les uns contre les autres. Trop souvent, on se retrouve tout seul face à un propriétaire ou face à une banque ou face à une agence immobilière. Et on a tendance à penser que le logement est une question individuelle, mais c'est une question collective. Et parce que c'est une question collective, c'est une question politique, c'est une question de choix politique. Les pouvoirs publics font le choix de ne pas construire assez de logements sociaux, ils font le choix de ne pas baisser les loyers, Ils font le choix de transformer nos centres-villes en parcs d'attractions touristiques. Nous pensons que le logement, c'est un droit et que chacun et chacune d'entre nous devrait avoir accès à un logement digne et que c'est une nécessité. Les droits, ça s'arrache. Et au même titre que la santé, nous pouvons faire du logement un droit. Mais pour ça, il faut qu'on lutte. Et il se passe plein de trucs en ce moment pour le logement. Nous pouvons repolitiser tout ça et lutter ensemble pour le rendre effectif, ce droit. Alors, non aux expulsions, baissons les loyers et réquisitions partout.
On se retrouve à la permanence du front anti-expulsion. Automne 2021.
Quand on a discuté ce matin, à partir de la petite brochure du Front anti-expulsion, faire face aux expulsions légales d'un logement, on est retombé sur ce mot, signification de déguerpir, et on s'est dit c'est fou, on dirait presque de l'argot comme ça, c'est un mot du langage courant, enfin, retrouver ça dans une décision de justice.
Moi, déguerpir, c'est un mot qu'on utilise pour des pigeons, pour des gamins, aller déguerpisser, quoi. Allez ouf, quoi. Voilà, vous gênez, quoi. Voilà, j'ai l'impression de gêner, quoi, avec ce mot.
Ah, moi, j'ai déjà eu un juge où j'ai eu une signification à déguerpir.
Moi aussi.
Et du coup, j'étais étonné que ça soit utilisé dans la loi, ce mot.
Ah, oui.
Avec tous les moyens disponibles, avec la force de l'ordre, par la force publique.
Il y avait un mot, moi, que j'avais noté tout à l'heure, qu'on aime bien, c'est le mot « refuge ». Pour parler de notre habitat ou de notre chez-soi, je voulais le poser là. Si ça vous inspire, ce mot « refuge », qu'est-ce que ça vous évoque et qu'est-ce que ça devrait être, quoi ?
Le mot « refuge », pour moi, il me fait déjà peut-être un peu peur. C'est un mot comme si je suis déjà reculée, je suis déjà emprisonnée, quoi. Voilà.
Refuge, ça me fait penser à quelqu'un de comme qui serait une victime, par exemple.
Moi, j'ai remarqué qu'en psychologie, en psychiatrie, on utilise beaucoup le mot refuge pour les gens dans le sens un refuge mental, et c'est un endroit où on se sent bien, on se sent sécurité. Et même les animaux ont des refuges, hein, la tanière d'un loup, celle d'un ours. Là où l'ours, mais la femelle ours met ses petits au monde, c'est un refuge. C'est cette image-là que moi j'aime bien, du mot refuge. C'est un endroit où on est à l'abri et quand on se sent bien, après on recommence à explorer un peu le monde et on essaye de reprendre contact avec nos semblables, quoi. Et on a tous un moment besoin de se retirer un peu, de se dire, allez, on souffle un peu, quoi. Et on n'a plus envie de parler, on n'a plus envie d'écouter, on a juste envie d'être seul avec soi. Et c'est un refuge pour moi.
Pouvez-vous poser une question aussi, donc par rapport à ce travail sur les mots? Là, il y a le terme SDF. C'est un mot qui vous tombe dessus. C'est une espèce de label. Et c'est vraiment le pire truc. Et je crois qu'il y a des gens qui ne dorment pas la nuit parce qu'il y a le mot SDF qui les poursuit.
Oui, c'est vrai que ce mot est très très pesant parce que c'est encore même plus bas que le premier des échelons. Oui, SDF, c'est très pesant. Ça veut dire que c'est la fin de ta vie, quoi. C'est fini. Après ça, il n'y aura plus rien. Mais ce n'est pas vrai, au fait. Moi, je me rends compte maintenant, c'est quoi SDF ? Je vous dis, je tombe de haut, donc je ne savais pas ce qui... Et ça arrive si vite que... Voilà, il faut savoir. Il faut savoir aller chercher les bonnes parties de soi-même à l'intérieur. Et puis c'est reparti, quoi. La vie ne s'arrête pas, hein, même...
Mais alors, comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, SDF qui est sans domicile fixe?
Oui.
Quel mot on pourrait remplacer, tu vois, de SDF?
Oui.
Il faudrait mettre d'autres mots.
Ah, d'autres remplacer?
Oui, oui.
Mais écoutez.
Et qui est votre condition, mais qui, justement, qui n'est pas stigmatisant et qui, justement, donne de la force.
J'avais pensé au mot nomade, au fait.
Directement lié à ça, au syndicat des immenses, on a travaillé sur un thésaurus de l'immensité, donc une adaptation des mots aux situations de l'immensité. Et justement, depuis pas mal de temps maintenant, et c'est un mot qui commence à être connu, à s'étendre, en tout cas dans le milieu associatif. On ne parle plus de sans-abri ni de SDF, on parle de sans-chez-soi, qui englobe tous les gens qui sont dans des situations diverses, mais qui ne sont pas chez eux. Donc ce sont les sans-chez-soi, et on ne parle plus de sans-abrisme, mais de sans-chez-soirisme. Un squatteur, il a un toit sur la tête, mais il n'est pas chez lui. Il ne se sent pas chez lui, souvent non plus.
Oui, moi, ça m'a frappé les prises de parole sur ce mot, parce que je ne l'avais pas conçu comme ça, et je comprends ce que vous dites, le fait que le monde soit tellement agressant. Mais j'avais juste envie de... Je viens de réaliser un truc, parce que Hicham et puis et Karim et d'autres ont parlé de nomadisme. Et immobilier, c'est exactement l'inverse, quoi. C'est ce truc immobile. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les gens qui ont de l'argent, qui ont beaucoup de capital, en fait, quand ils en ont vraiment trop, ils essayent de le fixer quelque part, quoi. Et un des endroits où ils fixent leur capital, c'est dans l'immobilier. Et vraiment, matériellement, les bâtiments, les tours et tout qu'il y a dans les villes, c'est de l'argent en trop qui ne sait pas où aller et qui va là et qui se met là et qui vient occuper les villes, en fait. Surtout que, du point de vue capitaliste, il y a ce terme qui est utilisé, celui de valeur refuge. Et donc, une valeur refuge pour le capital, c'est un endroit où le capital ne sera pas abîmé. Par exemple, le logement, l'immobilier, c'est une valeur refuge.
Interférence. Coupure dans le discours courant du brouillardage médiatique, moment de silence, de répit, où peut se redévelopper l'accès à la pensée propre et à la fabrication collective de sens. Les actions qualifiées d'interférences sorcières provoquent des ruptures dans le continuum bourdonnant de la pensée unique qui nous envoûte. La chape de plomb devient trouée par les bulles d'air neuf produits et a le pouvoir de réveiller les participants, eux, à ses actions. D'action en action, les moments de silence, de répit et les bulles d'air neuf se multiplient et communiquent jusqu'à former un réseau, semblable à des racines souterraines prêtes à faire craquer l'ancien monde. Le but d'une interférence sorcière est de faire entendre la musique masquée par la voix des maîtres, de faire entendre le silence auquel nous sommes réduits, teux, et de le repeupler par des chants, par nos voix. Dérivés vers, disruption, saxifrage, brouillage.
Sur l'îlot, Diane, vous suivez-nous, viens-y, restez là. Allez. Vous pouvez. Nous, on y va.
Ça y est, c'est bon. T'es au max ?
On est ici devant le syndicat national des propriétaires et des copropriétaires. Le SNPC, c'est le syndicat qui fait tout ce qu'il peut pour augmenter les loyers. C'est eux qui se sont battus pendant toute la période de pandémie pour éviter et arrêter le moratoire contre les expulsions domiciliaires.
Merci.
Ils se battent sans cesse pour imposer une indexation la plus élevée possible et c'est comme ça qu'on se retrouve à Bruxelles avec 6% d'indexation des loyers. Des accumulateurs, des profiteurs, des grands propriétaires et de leurs syndicats exercent une emprise et une contrainte sur nous.
Mais ce pouvoir des mots, nous pouvons nous en emparer en nous réappropriant, en les détournant, en les conjurant, en inventant ceux qui nous manquent et en les partageant. Cela constitue un glossaire sorcier dont les définitions agissent comme des incantations. Nous avons entendu les briques gémir et nous allons les faire crier. Mais pour activer ce glossaire et engager un processus de désenvoûtement, nous allons d'abord faire peser sur cette façade et ses bureaux le poids de nos chaînes et de nos mains. Le capital, ce qui ne l'est pas. Capital, ce qui ne l'est pas. Immobiliérisme, culte de la brique morte. La remise en demeure, une obligation de reloger.
L'obligation de reloger.
Résumé de la situation dans laquelle on est arrivé, le logement est devenu un refuge pour le capital, mais plus pour l'humain.
Comment ça se fait qu'on arrive à devoir dire qu'on ait besoin des refuges ?
Sans capacité, par l'usage de la sorcellerie, se désembourber de la marée noire capitaliste. Refaire peau neuve et se réapproprier ce qui nous a été confisqué. Corps, esprit, affect, émotion, pensée, action. Retrouver ses capacités magiques, sa faculté de voir, de percevoir, de se relationner au contexte, à l'environnement, à soi, aux autres humains et non humains. Se relier, se redonner collectivement de la puissance, retrouver un pouvoir d'agir, un pouvoir de faire. Dériver vers, brouillage, et Grégor, emprise.
C'était le premier épisode du glossaire de la finance et de la sorcellerie, réalisé collectivement par le laboratoire sauvage d'Essorceler la finance.
Avec le soutien du FACR, Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec l'aide de la Fondation Mycelium, et en coproduction avec l'ACSR, dont on remercie toute l'équipe.
Avec la participation de Sarah Delatte et Isabelle Thomas, Benoît Tillemans et Karim Slamani, membres du Front anti-expulsion de Bruxelles.
Et Gamel pour la musique.
Généalogie de l'accaparement, j'en profite, père des gens granges, cousin des gens magazines, beau-frère des gentrificateurs, une famille en briques.
On poursuit cette gymnastique sonore par une rencontre avec des soignantes de l'hôpital Brugmann et les membres de la santé en lutte qui nous font découvrir la réalité effrayante de l'hôpital transformé en entreprise commerciale.
Désorceler
la
finance.
Désorceler
la
finance.
Désorceler la finance
présente
une série documentaire sur le grand pouvoir des mots.
Deuxième épisode, la santé.
Entité A, au siège, je suis sur site. Entité A, au siège, attends votre signal. Je suis l'entité A. Je suis l'auditrice extra-humaine des situations spéciales de la toile de la finance. De mission en mission, je transfère mes atomes dans l'espace financiarisé et j'inspecte les anomalies. Je les audite, je les comprends, je les résous. Entité A, au siège, signal bien reçu. L'audit commence. Over.
Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Charlotte Grosso, responsable commerciale France et Monaco BlackRock. Bonjour Charlotte.
Bonjour Laurent.
Alors, nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler d'un thème d'investissement qui est redevenu central. Depuis 2 ans, on a reparlé de tout cet univers d'investissement en bourse.
Alors, c'est vrai, Laurent, qu'avec la crise Covid, on n'a jamais autant parlé du secteur de la santé. Alors, sans surprise, en 2020 et 2021, on observe que les investisseurs se sont tournés vers les valeurs gagnantes de la crise Covid, comme par exemple certains fabricants de vaccins, qui ont enregistré des performances records, à l'image de Moderna, qui a fait plus de 200% de performance en l'espace de seulement quelques mois.
Incroyable.
Et pour BlackRock, le secteur de la santé, c'est un secteur qui est porteur, qui bénéficie de vents favorables et qui surtout a le potentiel de croître le capital des investisseurs sur le long terme à travers une grande diversité d'entreprises, de différentes thématiques aussi qui vont bien au-delà des vaccins. À commencer par le constat simple, c'est que notre monde vieillit. En vieillissant, on consomme plus en besoin de santé. En moyenne, les dépenses de santé, elles vont doubler passé l'âge de 65 ans. Et donc, plus de personnes qui consomment plus, ça fait potentiellement des dépenses de santé qui ont une courbe exponentielle pour les prochaines années.
Je m'appelle Malika, je suis médecin, je suis pédiatre dans la santé en lutte depuis presque le début. Donc la santé en lutte, c'est un mouvement qui a commencé plutôt par... Bon, il y avait la grève des femmes. Et profitant qu'il y avait la grève de femmes et un préavis de grève, les infirmières de Bruckmann ont décidé de sortir, et surtout les infirmières des urgences ont décidé de sortir et de dire, voilà, c'est-à-dire ça c'est nos revendications, on veut plus de temps, plus de salaire et autres. Et c'est comme ça que, peu à peu, la santé en lutte se dit, mais on a envie de regrouper ou de centrer toutes ces personnes qui montrent que dans le secteur de la santé, comme travailleuses et travailleurs de la santé, ça ne va pas. Et on essaye d'être vraiment très ample, de dire, ben, on n'est pas seulement un mouvement d'infirmières ou de sages-femmes ou de médecins, mais aussi nettoyeuses, personnes qui travaillent dans les laboratoires, aides auxiliaires, auxiliaires de service, et personnes qui travaillent dans les maisons de repos, personnes qui travaillent dans les maisons médicales, dans les plannings familiaux, et de montrer comment la santé, c'est-à-dire le système de santé, a été vraiment tellement malmené dans les dernières années, avec des coupes budgétaires déjà depuis des années, avec une marchandisation des soins, avec une privatisation de toute une partie de la santé et surtout de la santé publique.
Je dis souvent, on est dans un marché incroyable, le marché de la santé. On est dans un marché où, finalement, nous, on ne cherche pas de clients parce qu'il y a encore de nombreuses maladies et de nombreux patients. En cela, aidés aussi par la pollution et le vieillissement de la population, les besoins sont quasiment sans fin.
Alors c'est vrai que déjà quand on parle du secteur de la santé, on parle d'un secteur qui est absolument indispensable. L'humanité a besoin de se soigner, que l'on soit en période de récession, de forte inflation ou de forte croissance. J'ai envie de dire, la santé, c'est pas optionnel.
Donc c'est un marché qui n'a jamais décru, qui croît gentiment, je dois dire. On annonçait l'arrivée des génériques, des bouleversements énormes, ben non. C'est vrai que les prix augmentent en conséquence et parallèlement à l'offre que vous avez, mais c'est un marché qui a toujours cru. Et dans le monde d'aujourd'hui, quand on est en recherche de sens, et bien, travailler dans la santé, c'est exceptionnel. C'est une chance.
6h25, anomalie dans la toile de la finance. Ça se passe en Belgique, à Bruxelles. C'est de là que les premiers signaux de l'anomalie surviennent. Je matérialise mes atomes à Bruxelles. Je connais bien Bruxelles. Bruxelles est une ville capitale pour le capital. J'atterris à Bruxelles, je rôde et soudain je vois.
Nous sommes à l'hôpital Brugmann avec un groupe de travailleurs et travailleuses.
Peut-être pour situer un peu, décrire dans l'épisode ce qu'il va y avoir, l'épisode dans lequel on va intégrer ce qu'on va se raconter aujourd'hui. On a interviewé déjà Malika, vous connaissez peut-être, de la santé en lutte de l'hôpital Saint-Pierre. Un des premiers axes qu'on a avec l'écoute des chroniques médiatiques et puis à partir de ce que Malika nous avait déjà raconté. Et ce premier axe est autour de l'impact ou du rôle de la numérisation, du digital, des ordinateurs, des robots dans le fonctionnement de votre travail en fait.
Voilà, moi je travaille en consultation. On est en avril 2023. Dans mon service, il y a déjà des patients qui se servent de l'intelligence artificielle. Donc il y a un programme qu'ils ont sur leur téléphone et ce programme scanne leurs yeux et il leur dit tu dois aller au docteur ou tu ne dois pas aller au docteur. Donc cette intelligence artificielle a fait de perdre le contact humain, docteur, patient. L'humain, il a disparu. Le docteur n'est pas un docteur. C'est ça aussi. Parce que le docteur, il ne va plus voir les patients, il va voir les images. C'est révoltant que l'humain disparaît de la médecine d'aujourd'hui.
Le numérique, c'est bien et c'est pas bien. Enfin, en tout cas, au niveau des urgences, avec le dossier des patients, c'est bien. Mais on se rend compte au fur et à mesure de l'usage de ce numérique, c'est qu'on devient, oui, comme vous avez dit, nous, des propres robots. Par exemple, un patient qui vient pour une douleur abdominale, il y aura des mots-clés que vous avez introduits. C'est la machine qui vous dit de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et vous ne devez plus réfléchir. Il n'y a plus de réflexion, de bilan, d'analyse, d'expertise. Donc au bout d'un moment, est-ce qu'on doit vraiment être infirmière? Est-ce qu'on doit vraiment être médecin? Est-ce que... Puisque c'est la machine qui vous dicte les actes.
Au fait, on est des machines sur deux jambes. Je donne une procédure à mon équipe, par exemple. Ils doivent la suivre, ils ne réfléchissent pas. Ben, ils ne savent pas, ils doivent aller appeler la personne. On ne laisse pas les gens le pouvoir de s'ouvrir, de réfléchir d'eux-mêmes, d'essayer de trouver les solutions. On a vraiment inversé, on est passé de l'humain au robot.
En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les sociétés qui composent le secteur de la santé, elles, ce sont des sociétés cotées. Et donc, ce sont des sociétés cotées qui vont être impactées par les décisions stratégiques de l'entreprise, la concurrence, ou même justement la capacité à innover.
Ce qui est le moteur de croissance, c'est l'innovation thérapeutique dans ce marché.
Non, mais effectivement, il y a un énorme enjeu. L'hôpital de demain, l'un des gros enjeux, c'est de faire en sorte qu'on y reste, nous, les patients, le moins longtemps possible. Et pour ça, les robots vont jouer un rôle déterminant. Des robots qui vont aider les chirurgiens à nous opérer de manière tellement fine, tellement précise, tellement peu invasive, qu'on va se remettre plus facilement, qu'on va cicatriser très très vite.
Bon, et puis on peut les utiliser aussi pour des tâches difficiles.
Voilà,
à la place des infirmières, par exemple.
Exactement. Pour les tâches pénibles, les tâches répétitives, les tâches ingrates, eh bien, on sous-traite en quelque sorte un robot et ça laisse plus de temps aux infirmières, aux aides-soignants, pour faire d'autres choses et pour avoir un rapport plus qualitatif avec les patients ou en tout cas pour faire des choses qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire aujourd'hui.
Il ne faut pas oublier qu'on est des humains et on nous robotise, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand on tombe et il y en a un autre qui va prendre notre place. Donc chaque travailleur dans les services de santé, il est confronté à ça. Il aime ce qu'il fait. Il a un respect inouï pour les patients. Il va se donner à fond. Et dans un certain moment, plus tôt ou plus tard, il va tomber. Il sera oublié le lendemain qu'il est tombé malade.
On va accueillir maintenant David Murgia. Merci à David.
Bonjour tout le monde. Témoignage anonyme. Je suis infirmière. À 6h40, je suis à l'hôpital. Je commence à 7h. J'arrive à mon casier. Je me scanne. Je me change et je prends l'ascenseur. Je me scanne. Le temps de vestiaire n'est pas payé à Saint-Luc. J'arrive dans mon unité. Il est 7h du matin, j'écoute le rapport. Je commence mon tour, je me log, je me scanne. Je m'attribue mes patients, je rentre dans la chambre de mon premier patient. Je me scanne sur le smartphone, je scanne le patient, je scanne les médicaments. J'ai pas vraiment besoin de savoir ce que je lui donne parce que l'ordinateur vérifie. L'ordinateur sait. Je ne sais pas vraiment ce qu'il a reçu plus tôt, c'est l'ordinateur qui sait. C'est l'ordinateur qui m'avertit si je donne un médicament trop tôt. Je ne dois plus vraiment connaître le nom du patient. L'ordinateur sait. L'ordinateur vérifie. Je dois prendre les paramètres de mon patient. L'ordinateur me l'a dit. J'encode. J'encode les paramètres dans le smartphone. J'ai scanné le patient. L'ordinateur me dit que tout va bien. Ouf, tout va bien. Attention. Notification. J'ai oublié de vérifier l'état de conscience de mon patient. Pourtant, celui-ci sort demain. C'est l'ordinateur qui me le dit. J'encode. J'encode. L'ordinateur vérifie. Ouf, tout va bien. L'ordinateur me l'a dit. Le patient a mal. Le patient m'appelle. Je scanne le patient. J'encode l'évaluation de la douleur. Je vais chercher un Dafalgan dans la machine. Je me scanne. Je me log. Je scanne le patient. Je scanne le médicament. Je donne le médicament. Ce matin, j'ai refait les pansements du patient. J'ai vérifié la propreté. J'ai oublié de le noter dans l'ordinateur. L'ordinateur le sait. L'ordinateur a vérifié. Je n'ai pas refait de pansement parce que rien n'est encodé dans l'ordinateur. Il me dit que j'ai rien fait. Mais moi, je l'ai fait. C'est juste que j'ai pas eu le temps d'encoder. C'est la pause. J'ai le temps maintenant. Je prends mon smartphone. À la pause, je me log. Je clique sur le patient. Je clique sur l'onglet. Je clique sur le sous-onglet. Je clique sur le bon pansement. J'encode l'heure. J'évalue type de pansement, longueur, largeur de la plaie, aspect de la plaie. J'avais évalué le pansement, mais je ne l'avais pas encodé. Ce que je sais, l'ordinateur ne compte pas. Ce que j'encode compte.
Je clique sur le pansement suivant. Je ne connais pas vraiment le nom du patient, mais je ne veux pas vraiment le connaître, le nom du patient. Parce que l'ordinateur le connaît, c'est ça qui compte. Je ne connais pas vraiment son traitement, mais c'est pas grave, l'ordinateur le sait. L'ordinateur me dit quoi donner au patient. L'ordinateur me dit quand le donner. La machine me délivre les médicaments à donner. L'ordinateur sait, c'est ça qui compte. L'ordinateur compte les actes. Il compte les actes et donne la cadence du travail. Le temps humain, la relation, calmer l'anxiété, rassurer, expliquer. Non, non, pas ça. C'est pas dans l'ordinateur. Rappelez-vous, c'est l'ordinateur qui compte. Je dois bien remplir l'ordinateur. C'est là-dessus que je suis évalué. C'est là-dessus que je suis surveillé. Bien faire son travail, c'est important. Je dois bien remplir l'ordinateur, car c'est ça qui compte pour le financement. Être financé, c'est ça qui est important. Dans mes chambres, le travail est fait, mais ça, c'est pas ça qui compte. C'est l'ordinateur qui compte. L'ordinateur, c'est important. D'ailleurs, il a coûté cher, le programme dans l'ordinateur. On parle de plus d'une centaine de millions. Un programme du futur, pour un hôpital du futur.
Capital obscène, synonyme de capital obscène. Époque dans laquelle le monde est sous emprise capitaliste. Emprise qui est responsable de déséquilibres environnementaux tels qu'ils entraînent une transition d'air géologique de la Terre. Âge sinistre qui élève en vertu la trivialité et l'indécence du capital.
On nous a toujours dit qu'en tant qu'infirmière, on niait son soi. On dit bien le soi niant. Mais
Ah oui,
tiens. Oui, vous l'avez jamais entendu ça.
Ça, ça doit être particulier à votre.
Oui, le soi niant. Donc on niant, on nie son soi.
Oui. Jusqu'à un certain point.
Oui, mais. Les financiers, ils ont bien compris ça. Hein. Ils ont bien compris au point qu'ils nous nient. Donc, je ne sais pas. Autant se nier, on niait notre soi. Mais là.
Pensement. Application de compresse lexicale sur les plaies du monde pour le penser. Le glossaire est une forme de pansement.
Il faut savoir qu'il existe des mots dotés d'une puissance surnaturelle. Je ne parle pas de mots comme Wingardium Leviosa, ni de Abracadabra. Je parle des mots que les anomalies combattent. Je parle de mots dont le pouvoir est défait par ces anomalies. De mots comme acheter, vendre, buy, sell, déficit, croissance, relance, privatisation, acheter à terme, vendre à découvert, flux de trésorerie disponible, tarification à l'acte, hedge, buy spot, sell short. Je parle de mots comme 5 milliards, 10, 29 923, 0,75, 3%, 439 milliards, 0, 120%. L'anomalie se propage sur la toile de la finance.
Moi, ce qui m'a choqué, et c'est la première chose qui m'a profondément choqué, c'est qu'au lieu d'avoir un responsable de service, j'étais managée par quelqu'un. J'avais l'impression d'être un produit de grand magasin. Ça participe à la déshumanisation de mon travail, qui est essentiellement un travail d'échange et profondément humain. Pascal, je travaille à Bruckmann depuis 1999. J'ai commencé avec le sida, je termine avec le Covid. Oui, c'est une réalité de la vie. Je suis infirmière en neurologie. Avant les années 2000, un hôpital public pouvait être en déficit. C'était autorisé parce que c'était un service rendu à la population. Après les années 2000, on devait être en équilibre. Et après 2010, on doit être rentable. Et c'est là que les problèmes commencent, avec une supervision importante, une analyse de la rentabilité des faits et gestes quotidiens, de la quantité de travail assumé, du calcul du nombre d'actes techniques posés en une journée. que ce soit nous, les médecins, ou d'autres personnes travaillant dans l'hôpital, hein, c'est pour tout le monde. Hein, on est tous managés de la même manière.
Et moi, ce qui m'inquiète, c'est les RH. Avant, ils avaient un autre terme.
Ressources humaines
maintenant. Mais
c'était
avant,
le service du personnel.
Voilà. Normalement, le service du personnel rendait service au personnel. Là, on est complètement à l'inverse.
Ce que j'aimerais bien souligner aussi, c'est que jusqu'en 2010-2011, quand on était engagé à l'hôpital, on devait en premier lieu avoir l'esprit d'équipe. Après 2011, c'était en premier lieu avoir l'esprit d'entreprise.
Ah oui,
non. Oui. Regardez bien. Oui.
Extractivisme sanitaire. 1. Gestion des ressources
humaines
conduisant à extraire des ressources
humaines
jusqu'à épuisement
humain.
2. Traitement
inhumain
du patient comme un gisement
humain.
3. Économie circulaire recyclant le ou la soignante
consumée, cassée, vidée
en ressources
patientes
pour l'hôpital. Dérivée vers burn-out, dépossession, libéralisme, capital obscène.
On a fait un acte de mobilisation devant la Tour des Finances. On veut un arrêt de la marchandisation des soins. Et pour nous, c'était très important de le faire là.
La toile de la finance repose sur des envoûtements qui transforment le monde en marchandises échangeables via des terminaux Bloomberg. Des envoûtements qui visent à transformer le monde. J'entends par là les molécules des corps, les plantes des forêts, les remèdes de grand-mère, les hormones du cerveau, qui visent à transformer le bonheur des gens et la santé des corps en marchandises, et les marchandises en profits, et les profits en villas détenues par les sorciers de la finance que sont les traders, les gérants de hedge funds, les banquiers. Les envoûtements de la finance mettent en branle un tas de mécanismes. Il suffit qu'un macroéconomiste dise 3% et des hôpitaux ferment à l'autre bout de l'Europe. Qu'une agence de crédit dise « à moins » avec perspective négative sur la dette souveraine et les portions de purée des vieux dans les homes sont réduites. Qu'un banquier dise « je vends » et les infirmières voient leur salaire gelé et un État fait faillite. Je perçois des symptômes de révolte, banderoles accrochées sur des nadars. Pancarte brandie par des manifestantes. Je lis, le capital a tué l'hôpital. Pas de profit sur nos vies. Du fric pour la santé publique. Je lis encore, on nous a sacrifiés pour la rentabilité. Je perçois que des humains risquent la paralysie s'ils persévèrent. Je perçois que certaines désorceleuses s'apprêtent à faire entorse.
Rituel de désenvoûtement de la finance.
Elles n'imaginent pas toutes les conséquences de la congestion, ni sur leur entourage direct et indirect, ni sur les corps humains et vulnérables qu'elles désorcellent. La fracture est proche. Elles vont couper l'appendice. Elles annoncent la nécrose imminente du capital. Tumeur dans la finance. La pilule ne va plus passer. Je perçois quelque chose que je ne devrais pas percevoir. Une amputation. Une main brandit un scalpel. Je perçois une ablation.
J'aimerais que l'hôpital soit accessible à tous.
Qu'on l'appelle plus entreprise déjà.
Qu'on soigne, même sans carte d'identité.
Avec des valeurs nobles, comme l'humanité, la solidarité.
Ce serait vraiment un lieu convivial dans la mesure du possible.
Avec une gratuité.
Un hôpital tourné vers les patients, où les soignants prennent le temps de parler aux patients.
Et alors, je voudrais qu'il y ait de la bienveillance. J'aime bien ce mot.
Permettre au personnel de prendre le temps de s'occuper de son patient et surtout de s'occuper de son personnel. Si on ne s'occupe pas de son personnel, un patient ne sera jamais bien soigné. Et le futur, c'est penser au bien-être en priorité et avant les chiffres.
Opérer. Œuvrer à l'ablation agile et déterminée de toutes les réformes qui ont mis à mal la santé et transformer l'administration des soins en un système commercial proche du supermarché. Exemple à ne plus entendre. Opération du mois, promo au rayon chirurgie, 6 incisions pour le prix de 3. C'était le deuxième épisode du glossaire de la finance et de la sorcellerie, réalisé collectivement par le laboratoire sauvage des sorceleurs de la finance, avec Marc, Rachida, Daniela et Pascal de l'hôpital Brugmann.
Merci à Malika Roulans de la Santé en Lutte et à Karim Brixi. Merci à David Murgia pour l'interprétation d'un texte d'une infirmière anonyme, accompagnée à l'accordéon par Philippe Aurivel. Et aussi à Brune Campos, l'entité A du texte de Théo Bourgeron. Et Gamel pour la musique.
Avec le soutien du FACR, Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec l'aide de la Fondation Mycelium, et en coproduction avec l'ACSR, dont on remercie toute l'équipe.
Entité A, au siège. Le fil a été sectionné, je répète, section du fil de la toile de la finance.
Gymnastique sonore, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission spéciale pour Encoder Coder, un événement de notre association Bande Magnétique qui commence lundi à l'Hôtel Pasteur. Pour connaître le programme, rendez-vous sur les réseaux. À bientôt.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.